Nous sommes dimanche 21 janvier 2024, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Santé en 7. Le tout des informations concoctées par nos rédacteurs. Cette semaine, c'est maintenant et tout de suite. Merci de vous installer confortablement. On démarre par cette triste note. Carnet noir, un grand homme de la plume et du micro s'en est allé. Le journaliste, chroniqueur, historien et écrivain Jérôme Kallos n'est plus. Il est décédé lundi 15 janvier 2024, à l'âge de 79 ans. Et quelle image a-t-il laissé autour de lui? Écoutons les journalistes Inès Kouassi et Prosper Van Dier encore au micro de Fortuné Dottin.
Alors j'ai connu Jérôme Kallos à LC2 quand il avait commencé à faire sa chronique sur LC2, sur la chaîne 2. Et c'était des chroniques toujours bien rédigées, bien élaborées, avec une diction à la perfection. C'était toujours très agréable de le suivre. Je garde le souvenir d'un homme des médias inspirant, d'un homme des médias qui savait encourager la jeune génération, qui savait motiver ses pairs, qui avait du respect pour vous, quel que soit votre âge. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé et qui m'a beaucoup impressionné sur le chemin.
Jérôme Kallos, c'est une personne différente, très 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 humble. Il ne considère personne comme inexistant. Il est toujours avec nous, il partage les bons moments toujours avec nous. Il ne se fatigue jamais, jamais, jamais. Il est toujours au boulot, il fait toujours son travail. Il a de la considération pour ses collaborateurs. Même l'agent d'entretien vaut pour ce monsieur. Il est toujours là à saluer tout le monde de la même manière. Il vient au boulot, il passe dans toutes les salles, il vient à la rédaction, il salue tout le monde, il donne la main à tout le monde. Il vient pas rester à la porte pour dire bonjour tout le monde. Non. Vraiment, c'est un père.
Jérôme Kallos est un baobab de la presse, de la littérature et de la culture béninoise, témoigne Hugues Chibozo, communicant et expert en couverture sanitaire universelle, il est au micro de Romaric Topé.
Et le doyen Jérôme Kallos est un baobab de la presse, de la littérature et de la culture béninoise. À mon humble avis, c'est un exemple de compétence, d'engagement, de dévouement pour la patrie. Un exemple pour les générations montantes. C'est une source inépuisable d'expérience dans les différents domaines de compétences qu'il a eu à côtoyer. Et je crois que les générations montantes ont beaucoup à apprendre de lui. Il est une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens.
Et pour faire complet sur cette info, notez que Pascal Zézinoué, promoteur de Radio Afrique Santé, a présenté aussi ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à nos confrères de Cap FM. L'intégralité de son message est à retrouver sur notre site web Radio Afrique Santé. « 215 900 doses de vaccins contre le paludisme ont été réceptionnées lundi 15 janvier 2024 par le ministre de la Santé Benjamin Nkwati. Et là, nous parlons santé. C'était à l'aéroport Bernardin Gantin de Cotonou en présence du coordonnateur résident du système des Nations Unies, du représentant résident de l'OMS au Bénin, du représentant de l'UNICEF et des responsables de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaire. Que pensent les habitants de Soaba par rapport à ces vaccins? Élément de réponse au micro de Fortuné Dottin.
Le paludisme, c'est la maladie qui survit surtout en Afrique. Ça tue beaucoup de gens. Nous sommes dans une zone marécageuse. Puis chaque fois, on a des affres de cette maladie. Si un vaccin pareil arrive, c'est pour sauver la population, la cuisse en général. Puisque ce qui fait perdre de gains aux populations, la cuisse, c'est le paludisme.
C'est vraiment une bonne initiative qui va aider la population à réduire vraiment le taux de paludisme. Déjà que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller faire les soins. Ça va vraiment permettre ceux-là qui font partie de la classe moyenne de profiter de ces vaccins-là.
Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que le vaccin antipaludéen ou le vaccin antipaludique ou RTSS est le premier vaccin et le seul vaccin jusqu'à présent d'ailleurs qui permet de réduire significativement le nombre d'hospitalisations dues à un paludisme grave.
Nous acceptons avec choix les doses de vaccins que notre pays a reçues. Mais il faudrait que le ministre de la Santé et les autres autorités sanitaires testent le vaccin pour s'assurer que cela est sans danger pour la santé et vérifier aussi leur efficacité.
Le mercredi 17 janvier était la journée dédiée à la cuisine italienne. C'est une cuisine également présente dans les préférences culinaires de plusieurs pays comme le Bénin, plus précisément à travers le plat culte, la pizza originaire de Naples et à base de galettes, de pâtes à pain garnies principalement d'huile d'olive, de sauce tomate, de fromage et d'autres ingrédients et cuite au four. La pizza est un plat emblématique de la culture italienne et de la restauration rapide dans le monde entier. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Les variantes sont multiples et séduisent plusieurs. Les jeunes béninois n'en font pas l'exception. Témoignage.
Oui, je consomme la pizza, pas tout le temps, mais j'en consomme dès que j'en ai l'occasion. C'est d'ailleurs un plat que j'aime bien. C'est un plat que je peux consommer tous les jours, hein. Pendant un an, pourquoi pas. C'est un truc que j'aime bien, surtout quand c'est encore chaud et fondant. Les pizzas que je consomme d'habitude, il y a la pizza orientale et la pizza barbecue. La pizza orientale, elle est faite avec des saucisses, barbecue, comme le nom l'entend, hein.
J'aime bien la pizza. Je dirais même que ça fait partie des aliments que j'aime le plus. Parce que déjà, en général, moi, je suis très fast-food, en fait. Et la pizza, c'est un mets particulièrement délicieux. Surtout quand il y a beaucoup de fromage à l'intérieur. C'est fondant et le goût est unique, en fait. Et puis, à côté aussi, il y a que ça économise beaucoup de temps. Surtout quand tu as un boulot qui te prend énormément et que tu as besoin d'un truc que tu peux manger rapidement. Avec les amis, on prend, et puis c'est rapide et on se remet au travail, en fait.
J'adore la pizza. J'en consomme chaque semaine, à moins que j'ai pas d'argent.
J'en prends régulièrement. J'aime bien ça, en fait. Bah, y a du fromage dedans, il y a des petits poivrons, il y a un peu de tout et le fromage. Moi, j'adore ça.
Qu'en est-il des valeurs nutritives de la pizza? Laurencia Padounou, nutritionniste et diététiste, répond.
Les pizzas traditionnelles peuvent être riches en calories en raison de la pâte, du fromage et des garnitures qui sont caloriques comme les pepperoni ou les saucisses. Il y a aussi la teneur élevée en gras et en cholestérol. La pizza peut contenir des quantités significatives de gras saturé et de cholestérol en raison du fromage et des viandes transformées. Les pizzas sont riches en sodium, en particulier si elles contiennent le fromage. Vous voyez, le fromage revient à chaque fois. Les olives, les saucisses, les condiments salés. Il y a aussi la présence des additifs alimentaires. Certaines pizzas, en particulier les pizzas industrielles, peuvent contenir des additifs alimentaires, des conservateurs et d'autres ingrédients transformés qui ne sont pas bénéfiques toujours pour la santé. Il y a la faible teneur en nutriments essentiels. En comparaison avec des repas équilibrés et riches en légumes, fruits et protéines maigres, la pizza peut être considérée comme moins nutritive parce qu'elle peut manquer de certains nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux.
Fort apprécié de la population, la consommation accrue de la pizza est déconseillée. Laurencia Padounou, nutritionniste, diététiste et spécialiste en santé publique, y donne plus de clarifications.
Une consommation excessive de ces pizzas peut contribuer à un apport calorique élevé, donc, et ce qui peut entraîner un gain de poids sera suivi de l'obésité, à des problèmes de santé et cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé. un apport excessif en sodium peut contribuer à l'hypertension artérielle. Nous avons aussi un impact non négligeable qui est l'impact sur la santé bucco-dentaire. La pizza peut être riche en glucides et en sucre, ce qui peut contribuer à des problèmes bucco-dentaires tels que la carie dentaire, et en particulier si elle est consommée fréquemment sans une bonne hygiène bucco-dentaire. Je conclurai pour dire qu'il est important de noter que ces inconvénients peuvent varier en fonction des types de pizza et des ingrédients utilisés. Il faut choisir des options de pizza plus saines comme celles avec des croûtes de blé entier, des garnitures légères en gras et riches en légumes. Ceci peut atténuer certains de ces inconvénients. Et rappelons-nous que la modération et l'équilibre alimentaire restent des principes clés pour maintenir une alimentation saine.
On sort nos clapins pour noter ce rendez-vous à prendre absolument si vous êtes infirmier ou sage-femme, au mieux acteur de la santé. Les premières journées scientifiques de l'Institut National Médico-Sanitaire en abrégé INMES vont se tenir du 31 au 2 février 2024. Elles vont porter sur le thème « Formation des infirmiers et infirmières et des sages-femmes ». Au Bénin, bilan, défis et perspectives, plusieurs sous-thèmes vont être également développés à cette occasion. Il s'agit de la formation infirmière et sage-femme, du raisonnement clinique infirmier basé sur la démarche de soins infirmiers et enfin l'approche par les compétences de la formation infirmière et sage-femme. À noter qu'il est prévu des communications libres durant les 3 jours que vont durer les premières journées scientifiques de l'Institut National Médico-Sanitaire. Bouclons le registre santé pour ouvrir celui culture dans la suite de ce numéro de Santé en 7. Face à la presse internationale, Patrice Talon, président du Bénin, a expliqué les tenants et les aboutissants de la première édition, du Festival Vaudondaise organisé les 9 et 10 janvier 2024 à Ouida. L'ambition première de ce festival est de relever le Vaudon au Bénin et l'élan de cette activité est plus culturel et économique que spirituel. Dans son intervention, le président Patrice Talon a laissé entendre que cet événement à caractère artistique et culturel contribue d'une manière ou d'une autre à l'amélioration du volet touristique qui est un secteur économique important au développement. On suit.
Quelles que soient les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le Vaudon, l'harmonie que le Vaudon requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions, dans ce Conseil des Nations, rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes, la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte, renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du Vaudon, tout en vivant leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne. Et par l'occasion, parvenu aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort dit sur la religion Vaudon en disant que cette religion est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça. Bon. Voilà un peu ce qui a guidé, titre personnel, ma réflexion, puis après au niveau du gouvernement béninois, et maintenant au niveau de tout le Bénin. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité qu'on partage avec le monde, aujourd'hui nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec le monde et aussi développer de l'économie à partir de cela.
Registre culture béninoise, toujours dans ce numéro de Santé en 7. Les discussions sur le FA continuent de s'alimenter. Au lendemain du TOFA 2024, une conférence sur le thème « Comment transformer le FA en église, histoire et anthropologie » de Ijaw Urumila s'est tenue le mardi 16 janvier 2024 dans l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est une initiative à mettre à l'actif de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie. La conférence a été animée par Erwan Diantel, professeur d'anthropologie à l'Université Paris-Cité et chercheur au Centre d'anthropologie culturelle. Quant à elle, il a fait des recherches sur le FA depuis des décennies. Le conférencier, professeur Erwan Diantel, nous dit ce qu'on peut retenir sur la thématique de cette conférence.
Moi, j'ai présenté une forme d'église, qui est une église de FA, qui a été créée au Nigeria dans les années 1930, et aussi à Porto Novo. Ce sont des gens qui, à partir du FA, ont inventé une église, qui s'appelle Ijo Orumila, Adulao, Ijo Orumila Ato, c'est une deuxième dénomination. Et le débat était très vif aujourd'hui et très intéressant parce que le ministre Maoni Okakpo, qui était là, a un avis très différent du mien et il pense que ce sont les catégories africaines, endogènes, autoréférentielles qui doivent être utilisées et mobilisées pour comprendre ce genre de mouvement. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut utiliser ces catégories aussi, mais pas seulement, et que dans les sciences sociales, l'histoire, l'anthropologie européenne, occidentale, il y a des choses importantes qu'on ne peut pas jeter.
Pour le professeur Maoni Okakpo, le conférencier a pris position et tente une acculturation que les Africains et plus précisément les fidèles fervents du FA ne sauraient tolérer.
Je n'ai pas compris pourquoi dans notre université aujourd'hui, on peut parler de modèle culturel à proposer à partir du syncrétisme ou de l'acculturation. Je n'ai pas compris pourquoi on peut parler de l'acculturation dynamique et créative. L'acculturation, il faut le retenir, c'est un modèle de nouvelle culture qu'on propose à un groupe donné. Donc vous pensez que nous là, Africains là, on va nous proposer un modèle de nouvelle culture à partir de l'église. On a parlé de l'église, hein, l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ce terme-là signifie étymologiquement. L'église, le faire l'église. Si le conférencier avait orienté sa conférence dans le sens de « je vous rapporte » historiquement ce qui se passe, d'accord, mais il a pris position. Comment il faut transformer le FA en église? C'est une prise de position.
Stanislas Aplogon est un pasteur de l'église Ijo Orumila. Il partage avec nous son état d'âme à l'issue de la conférence.
J'ai appris le truc là par les réseaux sociaux qu'il y a une telle conférence de ce genre aujourd'hui sur le nom de mon association. Je suis obligé de venir pour voir. Donc, j'étais ravi. Et ça m'a un peu. Ça a été une honte un peu pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un blanc qui est venu parler de nos choses à nous-mêmes, les Africains. Mais il faut qu'on se réveille et il faut qu'on accompagne au moins ce que nos aïeux nous ont laissé pour que cela se valorise.
Vu l'intérêt suscité par la conférence et les confrontations d'idées notées, le professeur d'anthropologie à l'Université Paris-Cité, Erwan Diantel, espère vivement que le débat va se poursuivre une prochaine fois et qu'il sera y invité. Culture béninoise, toujours dans ce numéro de Santé en 7, et plus précisément, on parle gastronomie béninoise. Le bomiwo, un plat typiquement béninois dont les principaux ingrédients sont la farine de maïs et le poulet bicyclette. À ne pas confondre surtout avec le amiwo, c'est une pâte qui a une connotation particulière chez l'ethnie Fon du Bénin. En effet, en langue fongbé, le bomiwo veut dire la pâte d'aigre gris. Comment est-elle préparée? Quelle est la portée socioculturelle de cette pâte? Suivez cet élément que nous propose Romaric Tokwe.
Le bomiwo est un mets à caractère particulier, généralement utilisé lors des rituels des cultes endogènes. Sa préparation requiert une procédure et une méthodologie cérémonielle spécifique dont l'observance par les adeptes garantit la préservation des liens établis avec les divinités.
Bomiwo, c'est une pâte réservée aux vaudous, aux esprits, aux vaudouisants. C'est une pâte préparée avec de l'huile rouge, du sel, de l'ail et du poivre. Aucun piment rouge ne rend dedans. dedans. C'est ça le beau mieux, avec de l'huile rouge. On prépare ça pour nourrir les esprits. Ceux qui sont vaudouisants, ils en raffolent. C'est le repas préféré des adeptes du vaudou. Des fois, on devrait préparer ça dans l'eau de cuisson de poule ou bien de coq. On enlève les viandes de porc et de poule là. Et beau mieux là, elle prépare dans cette eau pour agrémenter la sauce.
Aussi simple qu'il paraît, la préparation du bomio demande une maîtrise afin d'éviter des erreurs.
Les erreurs à ne pas faire lors de la préparation de bomio, c'est de ne pas mettre du piment rouge dedans, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive, tout ça là. Aucune autre huile ne peut rentrer dedans.
À la différence des autres pâtes, le bomio a une portée plus que spirituelle et sa préparation n'est pas à la portée du premier venu.
Le bomio a une portée spirituelle, une portée sociologique, une portée même culturelle. C'est ça la différence. Ce n'est pas donné à n'importe qui de préparer ce mets. Si vous voyez les rouillots, les grands vaudounos là, ce sont ceux-là qui ont la portée culinaire de ce mets. Ce sont les vaudounos qui ont la maîtrise de bomio. Quand nous voudrons faire des sacrifices, par exemple, sur Moulin Medi ou bien sur Tiemedi là, nous faisons Bomio. Si c'est une femme sur des tessons de calebasse là, on fait Bomio pour conjurer les mauvais sorts à la personne. Et on fait les sacrifices dessus. On passe au corps de la personne pour conjurer les maladies qui sont dans le corps de la personne. On va déposer ça sur l'Iroko pour conjurer le mauvais sort pour que la personne retrouve sa santé quand elle est malade.
Comme toute nourriture de divinité, le Bomio a ses caractéristiques et ses vertus que des adeptes et consommateurs connaissent et apprécient.
Dans la ville de Cotonou, plus précisément sur l'échangeur du Ouïro, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes ayant en main des ciseaux et de l'eau savonneuse. Nous sommes donc dans le registre société. Chez ces jeunes, vous pouvez vous faire tailler les ongles. Une équipe de notre rédaction a fait un tour sur les lieux pour en savoir davantage sur ce métier en pleine expansion. Reportage signé Fortuné Doty.
Nous sommes sous l'échangeur de Ouïro à Cotonou. Ici, tout le monde s'active pour pouvoir joindre les deux bouts. Plusieurs activités sont menées par ici. Vente d'eau, vente de chaussures et pédicules traditionnels. Activité qui retient notre attention. Le bruit de leur matériel de travail résonne. C'est ainsi qu'ils cherchent leurs clients. Contre vents et marées, ces jeunes arrivent à trouver leur gagne-pain à travers le service rendu. Ismaël Assini, tailleur d'ongles.
Bon, le travail que nous on fait là, hein, on fait tailler les ongles. Voilà. C'est ça que nous on fait. C'est ça que nous on mange. Si les clients sont arrivés ici par jour là, on peut trouver 15 personnes ou bien 10 personnes. On va travailler 100 francs, 100 francs là. Complé avec les pieds, avec la main là, on va payer ça 100 francs. Si on a gagné, c'est ça que on va manger, on va payer, riz, on va préparer pour manger nous tous ensemble.
Comme toute activité, le métier de tailleur d'ongles n'est pas sans difficulté. Pas mauvaise foi, certains clients refusent de payer après avoir bénéficié des services d'Ismaël Assini.
Il y a un client qui va quitter Calabi ou bien quelque part pour venir ici pour faire travail. Parce qu'ils sont que ici là on travaille. Il y a les gens, même si tu as fait travail là, ils n'ont pas payé. C'est ça. Ici au Bénin là, nous c'est le travail qu'on a d'accord avec ça. Si on n'a pas fait ça, on n'a jamais mangé ici au Bénin. C'est ça notre travail.
Quelques clients rencontrés sur les lieux nous confient pourquoi ils font le choix des tailleurs d'ongles traditionnels au lieu d'un salon de pédicure. Ils apprécient par la suite le service offert par ces derniers.
Moi, je suis vraiment satisfait de ce qu'ils font. Moi, je suis satisfait. C'est pourquoi je viens régulièrement ici. Chaque fois, je suis ici.
Mais ouais, non, il n'est pas fait bien, nous, mais c'est vrai, on a bien nettoyé ça. Le saleté qui sont dans les choses là, à l'ovile, mais fait bien, mais donc, bien, ouais. Bon, il est là, mais ouais, mais bon, donc, qu'est-ce que c'est? Il est là où, sinon, pour gratter ton, et non, y'a pas. Pour garder mes réseaux, mais là, dans mes yeux, dans mes voix, c'est un peu mieux. Et le deuxième, lui aussi, doit manger. Comme nous sommes qui sont à Cotonou là, tout le monde qui coule l'argent, à cause de l'argent. Ah ben, c'est pour cela quand lui aussi est en train de faire pour eux, ah, nous aussi savoir que oui, lui aussi doit manger. Et le travail qu'on est en train de travailler pour nous aussi, on voit que c'est bon pour nous aussi.
Moi, j'apprécie leur effort. Moi, j'apprécie leur effort. C'est mieux que le vol. Donc, le manque du temps d'aller dans les salons, de tout là, et encore le prix aussi. Il y a aussi le prix qui est moins cher pour nous aider, c'est tout.
Comme le dit-on, il n'y a pas de saut de métier. Tant que cela permet de gagner honnêtement sa vie, il faut en prendre soin.
Un reportage a signé Fortuné Dautigne. Poursuivons avec le registre société. La cohabitation entre la belle-mère et la bru n'est pas souvent aisée. Autrefois, la belle-mère vivait dans la même maison que la belle-fille. La belle-mère, si vous voulez, vivait dans la maison familiale de son mari. Mais de nos jours, rares sont les femmes qui acceptent cela. C'est pour éviter des problèmes, disent-elles. Comment justifier alors cette psychose dans la société d'aujourd'hui et l'évolution de cette mentalité sur la génération à venir? Mariella Dou tente d'y répondre à travers cette production.
Il n'est pas rare d'entendre la jeune génération féminine se plaindre de la famille de leur conjoint. Parfois déjà des épouses ou non, divulguent des préjugés sur la belle famille, même sans avoir une idée de celui sur qui elles doivent tomber. Quant à la cohabitation entre la belle-mère et les épouses sous le même toit, ces dames ne sont pas enchantées par l'idée. Celles que nous avons rencontrées dans la ville d'Abomey Calavi ce matin ont évoqué diverses raisons pour soutenir leur position.
Pour avoir la paix dans son foyer, il faut éloigner ses affaires de belle-mère. Ma belle-mère viendra rester avec moi. Toi, c'est d'une autre manière de son devoir, ta belle-mère. Les belles filles disent souvent, je vais la considérer comme ma maman, comme c'est la maman de mon homme, c'est de qu'elle est ma maman. Et l'autre, vous serez ensemble, tu peux même lui faire tout. Un jour seulement, elle va te montrer qu'elle est ton ennemi, c'est comme ça. Parce qu'elle va voir que son enfant te fait ci. Elle va commencer à penser à son passé et commencer par dire, j'ai tellement souffert sur mon enfant. Et voilà, il est devenu quelque chose. C'est si elle est au courant de tout, tout ce que tu achètes, il y aura toujours quelque chose. Je vais signer un contrat avec mon homme pour dire, si ta maman viendra nous rendre ici, c'est que au plus là, c'est 72 heures de temps à faire. On se comprend sur ça, c'est fini.
Vivre aux côtés d'une belle-mère étant heureuse, c'est une question de chance. La belle-mère voudra tout contrôler dans le couple de son enfant, surtout les dépenses. Peut-être qu'avant le mariage, l'homme dépensait beaucoup plus sur sa mère et après qu'il s'est marié, qu'il a des charges, il réduit ce qu'il donne à la maman. La maman se dit, c'est sa belle-fille qui prend sa part. Il y aura des moments difficiles que traversera l'homme et il va peut-être un peu dépérir et la maman dira, la belle-fille ne prend pas soin de son fils. Tout le temps, elle se plaindra.
La réponse est donc catégorique et plusieurs sont-elles à rester dans le même registre quand il s'agit de la belle-mère. Ce que n'approuvent pas les hommes qui pensent que c'est l'éducation d'aujourd'hui qui amène les jeunes filles à penser que la belle-mère peut être source d'ennui dans le couple. Les mères autrefois n'avaient pas une mauvaise image de leur belle-fille et vivaient avec elle sans démêler. L'individualisme est très poussé dans notre société aujourd'hui, pense la sociologue Marcel Aholou.
Beaucoup de jeunes épouses aujourd'hui n'acceptent plus cohabiter avec les belles-mères parce que la société a beaucoup évolué. Les mutations, les transformations que la société a connues de notre temps sont allées à un degré où l'individualisme est très poussé dans nos sociétés. La belle-mère incarne l'image de la mère chez sa fille. C'est dommage parce que ça pourrait servir de creuset pour aider la famille à pouvoir être plus équilibré, à pouvoir prendre en compte l'éducation des enfants parce que la présence d'une belle-mère, c'est quand même important pour la croissance, l'épanouissement d'une famille. Je ne dis pas que les belles-mères sont toutes exemplaires, non. Mais à l'idée de cohabiter avec une belle-mère, normalement, les jeunes n'allaient pas sentir de rejet systématiquement, non. La belle-mère peut aussi apporter une médaille de son fils seulement. Il faut de son côté quelques précautions aussi, c'est-à-dire il faut fondamentalement aimer sa belle-fille comme elle-même. Comme ça, la relation est plus facile de chaque côté. La belle-fille aussi est appelée à accueillir la belle-mère comme sa propre mère et vice-versa. Donc, c'est l'évolution de nos sociétés aujourd'hui, la crise de l'homme, la crise des valeurs, c'est tout ça qui a conduit progressivement au rejet des belles-mères dans les jeunes ménages.
Avoir une belle-mère agaçante ou autoritaire, en plus de nuire à la tranquillité d'esprit, peut provoquer de l'anxiété chronique au point de générer la dépression et même des maladies cardiovasculaires.
Reportage signé Mariella Dou. Et c'est tout pour Santé en 7 de ce dimanche 21 janvier 2024. Présentation Erwan Olidé. Collaboration technique Tibus Araihenou. Bon dimanche et bon repos à vous.